Très bien.
Salut. Direct.
Inès.
Enchanté. Ça va, Jacques?
Ouais,
Jacques. Bah ouais,
Et Monique, elle est là?
Non, maman, elle est pas là, là. Elle est restée chez moi, elle est en train de profiter un peu du plancher des vaches, quoi. Puis, bon, elle parle, mais elle est un peu timide, quand même, tu vois. Donc,
Bah, on t'aborde, hein, Inès, hein.
Tu peux venir nous regarder l'intérieur rapidement.
C'est un peu le bordel.
On sort toutes les affaires. Voilà, c'est chez Momo, chez
C'est dans cet espace que tu as voyagé pendant...
5 ans exactement, ouais, jour pour jour, 5 ans, ouais. Et donc là, on est dans la partie la plus large d'Ivinec. Il fait quoi, 5 mètres carrés, 5-6 mètres carrés, quoi. Ouais, donc c'est pas grand. C'est le coin cuisine, table à cartes.
Okay, Ivinec, c'est le nom de ton bateau.
C'est le nom de mon bateau, ouais. C'est le nom de la petite île où j'ai grandi, du coup, tout près d'ici, à plus presque dans les côtes d'Armor, où je suis vachement attaché... Et donc c'était important pour moi de donner le même nom de l'endroit où j'ai grandi à mon bateau.
T'as grandi donc, toute voilà. Ta vie sur une île?
Toute mon enfance. Après, très jeune, j'étais interne à 7 ans. Donc j'étais pas non plus 24h sur 24 chez moi, malheureusement. Mais j'ai quand même passé énormément de temps. Ouais. Et d'ailleurs, quand j'étais à Ivinec, je passais plus de temps sur l'eau que sur terre. Quoi. Toujours en train, tu vois, d'aller à la pêche, de plonger, de faire de la planche à voile. Ouais.
C'est une île de combien d'habitants?
Bah, en fait, c'est une île privée. Mais c'est pas grand. Hein. Ça fait 3 hectares et demi. Et on a une toute petite maison dessus. C'est mes grands-parents qui ont acheté ça juste après la guerre en 45.
Il y a que ta famille dessus?
Ouais, bah, en fait, il y avait mon père, mais malheureusement, il est parti quand j'étais au Groenland. Et du coup, maintenant, il n'y a plus grand monde. Donc, il y aura Monique et moi. donc, ouais, et puis c'est bien pour Monique parce que ça va éviter de trop la dépayser. Il y aura toujours un peu d'air marin. Moi, j'ai toujours eu cet appel du large et. Et j'ai grandi les deux pieds dans l'eau, j'adorais aller à la pêche pour amener que ce soit du poisson, des crustacés, poser mes casiers. Mon premier bateau, je l'ai eu, j'avais 6 ans, tu vois, un petit bateau de pêche avec un petit moteur dessus. C'était un rêve depuis tout petit d'acheter un bateau et partir naviguer, quoi, faire entre guillemets un tour du monde. Après, mon père, lui, avait traversé deux fois l'Atlantique à l'époque, mais c'est vrai qu'il m'avait raconté plein d'histoires et je pense que ça a dû laisser quelque chose chez moi. Puis voilà, à l'âge de 18 ans, moi j'ai décidé de partir en Australie pour apprendre l'anglais et gagner un petit peu de sous parce que j'avais ce rêve d'acheter un bateau. Je suis arrivé donc dans ce pays sans argent, sans parler un mot d'anglais, avec aucun contact. Donc c'est vrai que les débuts ont été compliqués, je dormais dans la rue du côté de Sydney, puis après je trouvais un premier boulot. Et ensuite j'ai fini sur des gros bateaux de pêche, et où là je bossais 20 heures par jour pendant des semaines. Là, c'était vraiment très dur, mais ça m'a permis de gagner pas mal de sous. Et quand je suis rentré en France à 20 ans, je me suis acheté mon bateau que j'ai préparé. J'ai eu qu'un seul bateau dans ma vie, c'est voilà, c'est Ivinec, c'est celui-là. Quand je l'ai acheté, j'ai cru faire une bonne affaire, mais très vite, c'était la désillusion. Je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de problèmes. Alors, il faut savoir qu'Ivinec, c'est un bâton d'acier, et le problème de l'acier, c'est la corrosion. Il y avait pas mal d'endroits, en fait, qui étaient pas mal abîmés. Donc, il faut gratter avec une brosse métallique, après, pour revenir à l'acier vraiment sain et passer des produits. Et en grattant, en tapant un petit peu, j'ai traversé la coque à 2-3 endroits, et là, je me suis aperçu qu'en fait, le bateau était vraiment très mauvais état. Et puis on m'a mis en garde, on m'a dit mais non, mais Garek, c'est trop dangereux. Déjà, t'as aucune expérience vraiment maritime sur des bateaux aussi gros, et ton bateau en très mauvais état, donc il faut le sortir de l'eau, ça va te prendre du temps, ça va te coûter de l'argent. Puis j'en avais marre, il y a toujours une bonne excuse pour pas partir. Et j'ai rebouché comme je pouvais avec des vis, du silicone, du Sikaflex, des choses comme ça, de la soudure. Mais je savais qu'il y avait plein d'endroits où le bateau était très fragile. Et je me suis dit, bon, bah, tant pis, j'y vais. Et voilà, je suis parti. Et j'avais aucun moyen de communication. J'avais une vieille VHF qui avait aucune portée, qui marchait très mal. Mais j'étais heureux, j'étais en confiance totale. Et puis je me disais, au pire, bon, bah, si ça coule, j'ai une petite annexe, j'ai un paddle. Donc avec les vents et les courants, j'arriverai bien quelque part. Voilà. En fait, je voulais une poule avant même d'avoir mon bateau. Je me dis, ah, mais une poule, c'est très trop cool ça. Et puis d'avoir des œufs en mer. Parce que la nourriture, c'est toujours un problème, tu vas voir. Et si tu veux, avant de partir, je me suis renseigné auprès d'experts et on m'a dit, mais une poule stressée, ça peut pas pondre. Et sur un bateau, c'est pas possible, ça peut pas marcher, en gros. Et bon, bah, moi, j'étais quand même super déçu. Je me suis dit, bon, donc je suis parti de Bretagne tout seul, très triste. Quand je suis arrivé aux Canaries, je me suis dit, bon, là, je vais partir pendant pratiquement un mois de traversée. Il faut absolument que j'en trouve une. Puis des copains là-bas, en fait, que je me suis fait, m'ont dit, écoute, nous, on peut t'en trouver une, on s'en occupe. Et puis, ils m'ont trouvé une poule. Et il y a eu en fait, notre regard s'est croisé. Il y a eu un coup de foudre, elle a embarqué sur le bateau. Et premier jour à 9, 25 en 28 jours de traversée de l'Atlantique. Et là, bon, je peux même pas les compter, hein, c'est plus de 1000. Voilà. Hein. En fait, j'avais pas vraiment d'idée de prénom. Et bah, en Bretagne, on a tous son petit bol, là, avec les petites oreillettes et son prénom dessus. Et moi, j'en avais un qui écrit Monique. Et je me suis dit, bon, bah, comme ça, Momo, on aura chacun son bol. Il y aura pas d'histoire, un peu, voilà. Quand je suis parti des Canaries, je savais pas trop à quoi m'attendre parce que moi j'ai jamais eu de poule chez moi et je m'étais dit bon bah peut-être qu'elle va tomber à l'eau, bon évidemment je serais de la rattraper mais en mer c'est quand même compliqué. Je me suis dit bon si vraiment elle m'emmerde au pire, bon, bah voilà je la boufferais. Bon c'est vrai que c'est aujourd'hui ça me choque un peu de dire ça parce que c'est enfin voilà c'est quelque chose qui pourrait plus jamais me traverser l'esprit bien évidemment, mais je savais pas trop à quoi m'attendre. Mais après on s'est tellement liés en fait d'amitié que qu'il y avait une vraie complicité entre nous, que bah, enfin voilà quoi, Monique, aujourd'hui pour moi c'est tout quoi, vraiment, honnêtement quoi, ouais.
C'est vrai?
Bah ouais, non, mais vraiment, ouais, je l'adore quoi, j'adore, je l'aime plus que tout, ouais, ouais.
C'est-à-dire?
Bah non, mais c'est-à-dire, quand tu passes autant d'années dans un endroit aussi petit, que tu partages autant de choses fortes, avec un animal, bah forcément, bah voilà, les choses font que bah tu te rapproches quoi. Enfin, on a vraiment vécu des moments durs où on aurait dû tout perdre avec Monique. Ça veut dire on aurait presque pu mourir à plusieurs reprises. Honnêtement, bah c'est vrai qu'il y a des moments qui ont été quand même compliqués où on a couché le bateau le mât dans l'eau. Une fois, on s'est complètement retourné la tête à l'envers. On a chopé des vagues qui montaient jusqu'à 15 mètres, des déferlantes. Enfin, tu vois. Et puis là, t'es tout seul avec ta poule et puis enfin Monique, elle comprend tout. Elle est très intelligente. Et je lui expliquais tout, d'ailleurs, c'est comme une confidente, moi je lui parlais, puis je le vois, elle m'écoutait, enfin, même des moments j'écoutais de la musique, et je voyais Monique qui me regardait en me disant, mais attends Guy, c'est quoi ça, change-moi ça tout de suite, hop, changeait, puis là, elle était contente et tout. Non, mais c'est, puis, enfin, elle me faisait du bien, quoi. Puis surtout, c'est, enfin, Monique, c'est comme un chien, un chat pour certaines personnes, c'est vraiment mon animal de compagnie, elle passe son temps avec moi, elle vient sur mes genoux, elle s'endort, je la caresse, elle me suit partout, je l'appelle, elle arrive tout de suite. Enfin, je partage tout, même quand j'ai fait du surf avec Monique, de la planche à voile, j'ai fait du kitesurf, et puis surtout, j'emmène aux endroits où ils avaient même jamais vu de poule, quoi. C'était ça qui était rigolo dans le Grand Nord, même dans. On a partagé tellement de moments forts. Ouais, ouais. Il y a des moments où j'ai presque pu survivre grâce à Monique. Je pense au moment où on était pris dans les glaces pendant 130 jours, complètement coupé du monde, sans soleil pendant plus de 70 jours.
Au Groenland,
ouais, avec des températures qui descendaient jusqu'à moins 60. Et moi, j'avais pris que du riz, très peu. J'avais plus de nourriture pour Monique, j'avais plein de graines. D'ailleurs, j'ai goûté, c'est pas terrible. Et j'avais prévu de pêcher, sauf que dans l'endroit où je me trouvais, malheureusement, il n'y avait pas de poisson. Et donc, Monique m'avait fait 106 œufs en 130 jours. J'ai quand même perdu 12 kilos. Mais grâce à moi, j'ai pu avoir ma dose de protéines. Et elle savait que j'avais besoin de ses œufs. Et puis, elle voulait me faire plaisir et être sûre que je reste bien en forme pour pouvoir bien m'occuper d'elle. J'imagine, j'espère. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, en gros, tout le mois de janvier, la banquise était bien, bien stable. On avait 60 cm d'épaisseur. Et donc, on pouvait, Monique comme moi, marcher dessus sans problème. Et fin janvier, en fait, il y a une tempête énorme, énorme qui arrivait. Et il y avait des vagues, en fait, qui glissaient au loin sous la banquise. Et on pouvait la voir, elle bougeait, en fait, était en mouvement. C'était vachement impressionnant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la banquise a commencé à se fissurer et à vraiment complètement se disloquer. Puis c'était un puzzle immense. En fait, j'avais des vagues de glace qui venaient taper contre le bateau. Et avec la pression, le bateau se faisait complètement déformer. Enfin, moi, là, je me disais, le bateau, il va se faire écraser, on va finir en sandwich à l'intérieur. Là, on s'est dit avec Momo, mais ça peut plus le faire, faut alors qu'on fasse un abri à terre. On avait préparé des sacs, avec un sac de couchage, une tente, enfin, des graines pour Momo, je l'avais sous mon bras, enfin, voilà. Au final, le vent a tourné, puis la banquise est partie, puis on s'est retrouvé dans l'eau libre. ça l'a fait, mais on peut voir que le bateau, hein, sur les deux côtés, est quand même pas mal cabossé, un peu comme une voiture, à cause de la glace, quoi. Mais il flotte. Moi, il faut savoir déjà que c'est pas une poule mouillée. Hein. Donc, mais non, mais après, elle a deux cabanes, hein, Monique. Elle a une cabane à l'extérieur et une cabane à l'intérieur. Alors, on a une ici, là, on peut voir.
Ah oui, donc c'est un petit casier, vous avez mis de la sure de bois et...
Ouais, c'est ça, ouais.
Et un pot d'eau.
Ouais, il y a de l'eau, et puis elle a plein de trucs, dans là, des graines, donc il y a des copeaux, il y a des coquilles d'huîtres, enfin, il y a plein de choses. Puis après, bon, bah, c'est toujours ouvert, elle peut se balader quand elle veut.
Monique, c'est la première poule à avoir passé le passage du Nord-Ouest.
Le passage du Nord-Ouest, ouais, c'est ce qui relie, en fait, le Groenland à l'Alaska, la mer de Bering, c'est quand on passe de l'Atlantique au Pacifique, par l'Arctique, par le Nord, hein, des glaces, donc... Et Monique, voilà, ouais, c'est la première poule à avoir fait ça, mais c'est la première poule à avoir fait tellement de choses que là, on pourrait en parler pendant des heures.
Et c'est quoi comme poule ?
Bah, Monique, c'est une poule rousse, hein, c'est on dit une Red Rod Island en anglais. C'est très commun, hein, c'est voilà, des poules pondeuses, on en voit énormément.
C'est une poule comme il y a dans les élevages industriels ?
Ouais, malheureusement, ouais. Et toutes ces poules en batterie, là. Ça, c'est quelque chose aussi qui me fait, moi, beaucoup de peine quand je pense que 80% des poules, elles n'ont jamais vu la lumière du jour et qu'à même pas un an, elles partent à l'abattoir et qu'elles sont faites juste pour pondre. Tu les vois en batterie, enfin, les unes sur les autres, enfin, parfois même mortes, elles se bouffent entre elles. Enfin, c'est genre atroce, quoi. Enfin, je trouve même pas de mots pour exprimer ce que je ressens par rapport à cette cruauté, qu'on n'a pas le droit de faire ça à des animaux, quoi. Non, vraiment. Et moi, j'ai un petit peu habité avec les Inuits avant de partir sur ce projet d'hivernage. Ils m'avaient appris comment tuer un phoque, le dépecer, le préparer, tout ça. Donc, moi, j'avais prévu de tuer un phoque dès le début pour avoir suffisamment de nourriture pendant mon hivernage. Et au tout début de sa prise dans les glaces, j'étais avec Monique à l'extérieur. Puis je me souviens de voir une petite tête de phoque sortir de l'eau. Et là, bon, j'étais assez content. Je sors ma carabine et là, avec ma lunette, je commence à le viser. Et là, je vois cette tête de phoque se tourner vers moi avec ses petits yeux et me regarder d'un air, me dire « Mais non, mais toi, tu peux pas me faire ça, pas toi. » Et c'est vrai que depuis que je suis avec Monique, j'ai plus du tout le même regard envers les animaux et j'ai pas pu tirer, quoi.